Radio Prague, les informations.
Nouvelle attaque des hackers contre le Parti civique démocrate. Deux tiers de la population tchèque contre la réforme de la santé publique. La partie basse de la place Venceslas passe en zone piétonne. Des données personnelles des membres du Parti civique démocrate ODS, principale formation de la coalition gouvernementale, viennent d'être affichées sur Internet. L'information a été communiquée par le serveur pooh.cz. La liste contient les dates de naissance des membres de l'ODS, ainsi que leur numéro d'identification nationale, adresse électronique, numéro de portable et d'autres données encore. Celles-ci ont été rendues publiques par deux groupes de hackers, dont Anonymous, qui disent vouloir ainsi dénoncer l'indifférence des hommes politiques vis-à-vis de l'opinion publique. Selon une enquête réalisée par le Forum de santé tchèque ČSF, deux tiers des personnes interrogées ne croient pas que les lois sur la réforme de la santé publique préparées et réalisées par le gouvernement actuel puissent améliorer les soins médicaux en République tchèque. Bien qu'ils approuvent certains changements dans le système de la santé publique, ils craignent les retombées financières de la réforme. À partir de ce lundi, la moitié de la place Venceslas est interdite à la circulation routière et transformée en zone piétonne. À terme, la municipalité envisage de revitaliser progressivement la totalité de la principale avenue pragoise située en plein centre-ville. D'après le maire du premier arrondissement de Prague, Oldřich Lomecký, la zone piétonne pourrait ainsi être élargie jusqu'à la statue de Saint Venceslas. Le président du conseil régional de Bohême centrale, David Rath, proteste contre l'interdiction d'entrer dans la capitale tchèque pour les camions avant l'achèvement d'un périphérique dont la construction est en cours. Selon David Rath, si les camions ne pouvaient pas entrer dans la ville, cela influencerait négativement la situation dans l'ensemble des transports en Bohême centrale. Le président du conseil régional a déjà adressé une lettre dans ce sens au premier ministre Petr Nečas et au ministre des Transports Pavel Dobeš. Ce lundi, le président tchèque Václav Klaus est à Paris pour le lancement de son ouvrage « Sauver les démocraties en Europe » paru en février dernier aux éditions François-Xavier de Guibert. La présentation de l'ouvrage est organisée par l'Institut de la démocratie et de la coopération au Cercle de l'Union interalliée. Au cours de l'année dernière, les sponsors ont été les plus généreux vis-à-vis du Parti civique démocrate ODS et du Parti Affaires publiques VV, partenaire dans la coalition gouvernementale tchèque. L'ODS a reçu 93,4 millions de couronnes, 3,7 millions d'euros, et Affaires publiques a obtenu de la part des sponsors 38,4 millions de couronnes, 1,5 millions d'euros. Les doutes planent sur l'origine des dons que les sponsors ont offerts à ce dernier parti. 13 professeurs d'université mettent en cause l'étude sur la population du Grand Tétras dans le parc national de la Šumava, et selon laquelle le tourisme et l'abattage d'arbres ne nuisent pas à cet oiseau menacé de disparition en République tchèque. L'étude en question a été élaborée par le garde forestier Jan Planianski et l'ancien fonctionnaire du ministère slovaque de l'Environnement Josef Duha. Les critiques reprochent à cette étude une méthodologie erronée et un manque de connaissances fondamentales de la biologie du Grand Tétra. Météo. Ce lundi, jour de la fête des Erika, le temps en République tchèque a été variable. Les températures maximales ont été comprises entre 7 et 11 degrés. Mardi, le ciel en Tchéquie sera nuageux à variable avec quelques pluies, notamment vers la fin de la journée. Les températures maximales se situeront entre 14 et 18 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter, qui cède maintenant le micro à Anna Kubišta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, merci à Václav Richter pour son bulletin d'information et bienvenue dans notre nouvelle émission sur Radio Prague. Toute une série de nouvelles lois relatives à la santé publique sont entrées en vigueur le 1er avril. Tour d'horizon des nouveautés que ces lois instaurent dans quelques instants. Liz London est décédée à Paris samedi. Liz London, c'était la femme d'Arthur London, l'auteur du livre « L'aveu » racontant les purges staliniennes en Tchécoslovaquie dans les années 50. Et puis, on passera au sport en deuxième partie d'émission, comme tous les lundis. Et bonne écoute de ce programme. Le projet de réforme de la santé est entré en vigueur ce dimanche 1er avril. Les lois encadrent une série de changements des services de santé. Pour beaucoup, il s'agit d'une véritable avancée dans de nombreux domaines des droits des citoyens en matière de santé. Certains spécialistes craignent au contraire que la nouvelle série de lois n'affaiblisse le statut des patients vis-à-vis des institutions médicales. Les détails avec Paul Bauer.
Ce dimanche 1er avril, trois nouvelles lois sur les services médicaux sont entrées en vigueur. Les textes ont été rédigés par le gouvernement de coalition de Petr Nečas dans le cadre de la réforme de la santé publique. De manière générale, la réforme donne le droit aux patients de consulter leurs dossiers médicaux. Tout refus ou obstruction à la demande des patients dans ce domaine seront punis d'une amende élevée. Sur ce point, Martin Plíšek, vice-président, vice-ministre de la Santé.
Il s'agit d'un accord sous déclaration. Cela veut dire que le patient doit manifester sa volonté sur la base d'un accord avisé qui stipule le moment où il est informé de ses droits par le médecin. C'est un accompagnement dans les établissements de santé.
Selon le ministre de la Santé, Léo Schreger, la réforme devrait également permettre aux patients de déposer plus aisément plainte contre les médecins et les hôpitaux.
Les patients pourront désormais se plaindre des responsables des établissements médicaux, mais également se plaindre contre les prestataires de soins. Actuellement et de manière générale, un patient insatisfait du service d'un hôpital se plaint auprès du directeur. Selon mon expérience, toute une série de choses est résolue à ce niveau.
Má zkušenost je taková, že celá řada věcí je vyřešena i na téhleté úrovni.
Les spécialistes du droit de la santé ne partagent pourtant pas l'interprétation des nouvelles lois faites par leurs auteurs. De l'avis du juriste André Dostal, la nouvelle série de lois, loin de renforcer le droit des patients, affaiblira leur statut. On l'écoute.
Selon la nouvelle définition du lege artis, c'est-à-dire du nouveau droit de la médecine et de la santé, il ne sera pas possible de poursuivre les hôpitaux lorsque les responsables des établissements de santé auront persuadé un patient sur des propositions concrètes de traitement et d'objectifs. Donc, les plaintes seront moins nombreuses.
Outre le droit d'information et de plainte, la nouvelle législation prolonge par exemple le délai maximum d'arrivée d'une ambulance sur le lieu d'intervention de 15 à 20 minutes. Parmi les autres articles importants, la réforme prévoit des mesures relatives aux droits des malades et à la fin de vie. En effet, le texte élargit le droit des malades dans le domaine de la réanimation. Les patients peuvent désormais décider de l'interruption des soins, même lorsqu'ils sont inconscients. Ils peuvent ainsi signaler dans un acte notarial la manière dont les médecins doivent agir dans le cas d'un coma prolongé et dont la vie du patient est assistée médicalement. Une loi réforme également la procréation assistée, allongeant jusqu'à 49 ans le droit d'y avoir recours. La loi précise toutefois que seules les femmes de moins de 39 ans seront remboursées par l'assurance maladie. La loi prévoit également que les donneuses d'ovocytes devront être âgées de 18 à 35 ans, tandis que pour les dons de sperme, les hommes devront être majeurs et ne pas dépasser 40 ans. Enfin, du point de vue de la prévention, la vaccination non obligatoire des jeunes filles de 13 à 14 ans contre le cancer du col de l'utérus sera désormais remboursée. Pour les autres, le montant du vaccin s'élève à 10 000 couronnes, environ 400 euros.
C'est le Parti communiste français qui l'a annoncé à la presse, un parti auquel elle est restée fidèle jusqu'à la fin, malgré le désenchantement qu'il a pu lui faire subir. Liz London, ancienne résistante et veuve du héros de l'aveu, est morte samedi à Paris à l'âge de 96 ans. On ne peut pas parler de Liz London sans évoquer Arthur London, tant le couple est emblématique et d'un engagement tout à la fois politique et d'une vie à deux. Née en 1916 en France, de parents espagnols, celle qui s'appelle encore à l'époque Elisabeth Ricol fait partie de cette génération qui croit qu'un monde meilleur se construit à l'Est. Et c'est d'ailleurs à Moscou qu'elle rencontre son futur mari, le Tchèque Arthur London, qu'elle épouse et avec lequel elle s'engage aux côtés des combattants du franquisme pendant la guerre civile espagnole. Puis viendra la guerre en France et la résistance, mais aussi la déportation pour tous les deux. Le couple survit à toutes ces épreuves et part s'installer en Tchécoslovaquie après la guerre. Arthur London devient vice-ministre des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement communiste tchécoslovaque. Seulement, les purges staliniennes guettent et comme tant d'autres anciens brigadistes et résistants à l'étranger, Arthur London tombe en disgrâce et est arrêté en 1951. Liz London.
Le procureur qui pose la question, plaidez-vous coupable ou non coupable ? Coupable. Ça a été pour moi une chose terrible, parce que je ne pouvais jamais m'imaginer qu'il y avait des méthodes qui font avouer la culpabilité à un innocent, d'autant plus que je connaissais mon mari. Cette culpabilité à l'aveu, les aveux, c'est terrible. J'avais cru au procès de Moscou. Tout le monde croyait au procès de Moscou à cause des aveux. Peu à peu, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Là, de plus en plus, avec le fait qu'il y avait des choses qui étaient des mensonges et que je savais que c'était des mensonges, ça, je me disais, quand il y a un mensonge, tout peut être des mensonges. Mais il fallait que lui me dise. Et ça, ça a été possible seulement, je l'ai revu la première fois avec les enfants pour Pâques 1953.
Ainsi s'exprimait en 2003 au micro de Radio Prague Liz London, ancienne collaboratrice de la station, devenue persona non grata après l'arrestation de son mari qu'elle avait apprise par les journaux. Démunie et un temps persuadée de la culpabilité de son mari, elle va ensuite tout faire pour le faire sortir de prison. Durant ces années d'emprisonnement, Arthur London écrit en français des textes destinés non à être publiés, mais à informer le Parti communiste français. Il décrit les interrogatoires, tortures et procès infligés par le régime stalinien afin de lui extorquer des aveux. Il les transmet clandestinement à sa femme, glissés dans des paquets de papier à cigarettes. Ce sont ces textes qui serviront de base au roman L'aveu, sorti en 1968, au moment de l'invasion soviétique en Tchécoslovaquie, et au film de Costa Gavras, tourné 2 ans plus tard avec Yves Montand et Simone Signoret, deux compagnons de route du Parti communiste. C'est d'ailleurs autrefois le réalisateur Claude Lanzmann qui avait parlé à Costa Gavras du livre L'aveu. Il s'était souvenu de cette époque lors de son passage à Prague en 2008. On l'écoute.
Ce qui a été décisif pour moi, c'est le livre de Arthur London, L'aveu. Après avoir lu ce livre qui m'a complètement bouleversé, qui m'a complètement convaincu de la justesse absolue de ce que London disait, donc du mensonge radical des procès, ce qui était très étonnant, c'est que cet homme qui avait été littéralement abandonné par tout ce qu'il aimait, par tous les idéaux qu'il avait eus, qu'on avait condamné, non pas à mort, puisqu'il est un des trois à ne pas avoir été condamné à mort, condamné pour sionisme, en vérité par antisémitisme. Moi, j'ai vu que London entreprenait d'une certaine façon de se relier au judaïsme. Puisqu'on le faisait juif malgré lui, autant le devenir de sa propre volonté.
Arthur London, finalement libéré en 1956, se réfugie en France. Lui, comme Liz London, continue de dénoncer les crimes du stalinisme et le régime de Gustav Husák après 1968, mais reste toutefois fidèle à l'idéal communiste de leur jeunesse, un grand écart qui leur a été parfois reproché. Liz London, encore en 2003.
Il y a l'idéal, qui est un idéal qui n'est pas d'aujourd'hui. Mon père, qui était analphabète, quand il parlait avec ma mère, qui elle était très croyante, elle, quand il parlait de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il disait mon père ? Mais Jésus-Christ, c'était un homme comme nous, mais c'était pour le premier communiste, c'est celui qui voulait la liberté, qu'il n'y ait pas l'esclavage, qu'il y ait la fraternité, etc. Cet idéal, il a existé toujours. Donc c'est un idéal très beau. Mais il faut voir comment, dans la pratique, il est transformé.
Les obsèques de Liz London auront lieu le 5 avril au cimetière d'Ivry. Voilà, et comme chaque lundi, place maintenant à la rubrique sportive. Cette semaine, un reportage sur le 13e semi-marathon de Prague. Un semi-marathon marqué une nouvelle fois par une participation record, mais pas seulement. Le sport et le semi-marathon de Prague, c'est tout de suite avec Guillaume Darguet.
Sport en République tchèque.
Oui, je suis très satisfaite. C'est une très jolie ville. Impeccable. Bien sympa. J'ai mis 2 heures. Je pensais mettre 2h50. C'est le premier semi que j'avais mis ce temps-là. Mais comme je n'étais pas super bien entraînée, les pavés, j'ai trouvé ça difficile. Courir sur les pavés, c'était assez difficile. Mais sinon, non, j'ai pas été embêtée par le vent. Peut-être parce que j'étais trop dans la course, j'ai pas eu froid, donc non, ça allait.
11 000 coureurs à pied, parmi lesquels Nadine de Lyon et plus d'une centaine d'autres Français ont participé samedi au 13e semi-marathon de Prague. Un record de participation qui, à 24 secondes près, aurait pu être accompagné d'un autre record bien plus marquant encore. 24 secondes, c'est en effet ce qui a manqué à l'Éthiopien Atsedou Tsege, vainqueur en 58 minutes et 47 secondes pour établir un nouveau record du monde de la distance. Mais le vent défavorable qui a gêné les coureurs, notamment dans les 5 derniers kilomètres, a sans doute empêché de meilleures performances. Malgré tout, le jeune Éthiopien de 20 ans a signé à Prague la meilleure performance mondiale de l'année et la 5e meilleure performance de tous les temps. Chargé de la participation des coureurs d'élite au sein de la Société du Marathon International de Prague, Yana Moberlai était partagée entre deux sentiments à l'arrivée de la course.
Un temps inférieur à 60 minutes, c'est presque un miracle. Alors que dire d'un temps inférieur à 59 minutes? Je n'ai pas de mots pour exprimer mon admiration. C'est vraiment une performance extraordinaire. Je ne peux être que satisfaite, car c'est exceptionnel. D'un autre côté, nous pouvons quand même nourrir quelques regrets par rapport aux conditions météo. Avec une météo ne serait-ce qu'un poil plus clémente, les coureurs auraient été encore plus rapides. Néanmoins, nous avons la meilleure performance mondiale de l'année, et je pense que Prague peut être fière du spectacle qu'elle a vu.
Fier de lui, François de Clermont-Ferrand l'était lui aussi, comme il l'a expliqué lors de la réception organisée après la course à l'ambassade de France.
Ben aujourd'hui, moi, je suis content de moi parce que j'ai mis 1h39, c'est mon record personnel. Donc vraiment une grosse satisfaction pour moi pour venir à Prague pour battre mon résultat, mon meilleur chrono. Ben disons que le semi-marathon de Prague rentre dans ma préparation pour le marathon d'Albi. Donc je suis entraîné depuis déjà 4 semaines. Et là, c'était le passage, le chrono à passer pour faire le marathon d'Albi, quoi. Un bon test et un test concluant pour moi.
Qu'avez-vous pensé du parcours de Prague? Un parcours très, très pavé, il y a aussi les rails des tramways, c'est pas toujours évident. Quel était votre sentiment par rapport à ça?
Oui, ben, on a déjà fait le marathon de Rome, donc on est habitué un petit peu à courir sur des revêtements comme ça. Mais c'est vrai qu'entre les pavés qui sont quand même relativement plats aujourd'hui, il faut faire attention vraiment avec les rails de chemin de fer. Mais c'est un parcours très roulant. Hein, la seule vraiment difficulté, c'est un peu le vent de retour qu'on avait. Mais sinon, parcours vraiment agréable à faire.
Parmi la foule d'amateurs qui ont couru dans les rues de la capitale tchèque, figuraient comme chaque année plusieurs personnalités, parmi lesquelles l'ancien footballeur Pavel Nedved. Comme il y a 2 ans de cela, le Ballon d'Or 2003, aujourd'hui dirigeant à la Juventus de Turin, a participé au semi-marathon dans son pays d'origine, cette fois dans un temps final de 1h44 minutes et 25 secondes. Et pour Nedved, comme pour François et bien d'autres encore, ce semi-marathon ne constituait qu'une étape dans la préparation au marathon qui, à Prague, se tiendra le 13 mai.
Nous en avons bien profité malgré le froid, c'était une course très agréable. Les gens ont été formidables tout le long du parcours, ils m'ont aidé à tenir un rythme de 5 minutes au kilomètre, j'en suis plutôt content. Maintenant ce n'était que 21 kilomètres, ça va encore, mais un marathon c'est le double. Et je sais bien que les 21 kilomètres suivants sont beaucoup plus longs que les premiers. J'ai beaucoup de respect pour le marathon, j'en parle depuis 2 ans, mais je vais bientôt avoir 40 ans et je n'ai plus le temps d'attendre, alors il est fort possible que je sois au départ du prochain marathon.
Comme Pavel Nedved, François et Georges, venus eux de Forbach en Lorraine, avaient déjà participé au semi-marathon de Prague en 2010. Et comme il y a 2 ans, François et Georges repartiront une nouvelle fois avec un bon souvenir, et pas seulement sportif, de leur passage en République tchèque.
Bah moi j'ai fait 2h14, mais disons que j'étais pas spécialement préparé. On n'a pas eu le temps de se préparer, on va dire, correctement. Donc nous sommes partis à 4 ensemble au départ et nous avons fini à 4.
Voilà. Eh ben moi, Georges, j'ai fait 1h56 minutes. Et puis mon objectif était de moins de 2h. Et puis il a été atteint et je suis très content également de ma performance. En plus de ça, Prague, c'est une belle ville. On vient également pour passer encore un bon week-end et puis voilà.
Et qu'avez-vous pensé du parcours en général?
Ben, il y a 2 ans, on l'a déjà fait il y a 2 ans. Donc le parcours, on le connaissait quand même plus ou moins.
Plus ou moins, oui.
Et puis donc ça nous convient, c'est pour ça qu'on est revenu 2 ans après, quoi.
Oui. Oui, Prague est une très belle ville. Donc nous, disons que comme on court pas spécialement pour faire des performances, donc on a le temps de regarder un peu le paysage, l'architecture. Donc en fait, on regarde un petit peu ce qui se passe autour.
À part la course, comment se passe votre séjour? Vous êtes venu avec mesdames ou...
Non, disons que là, nous sommes venus à 7. Donc 6 hommes et une femme. Et nous visitons la ville, la vieille ville. Puis le soir, nous allons manger dans des restaurants. Et puis après, on va un petit peu dans les boîtes de nuit. En fait, des choses tout à fait normales.
Après la course.
Après la course, voilà. D'accord. Le sérieux dans la course et après le divertissement.
Comme Nadine de Lyon, François de Clermont-Ferrand et bien d'autres encore en provenance des quatre coins de la France, François et Georges de Forbach étaient présents à la réception organisée samedi en fin d'après-midi à l'ambassade de France. Une réception à laquelle étaient invités tous les Français ayant participé au semi-marathon, qu'ils soient venus de France ou résident en République tchèque. L'occasion pour tous de visiter et de découvrir le bâtiment baroque de l'ambassade de France à Prague, comme l'explique l'ambassadeur M. Pierre Lévy.
C'est la première fois que nous avons lancé une telle invitation parce que nous pensions, et je dois reconnaître que l'initiative, l'idée vient aussi de nombre de mes collaborateurs qui sont coureurs, nous pensions que c'était une bonne occasion de retrouver des compatriotes qui font le déplacement à Prague, qui sont amoureux de la course à pied. Et la course à pied, ce n'est pas un sport comme un autre, je trouve, c'est aussi un style de vie. Et donc de les retrouver à l'ambassade de France, de les accueillir à l'ambassade de France dans ce palais Bucquois, qui est un bel endroit dont les Français sont fiers. Donc c'était en quelque sorte un peu une pause culturelle, touristique et française dans cette journée qui était très, très active, très sportive pour eux.
Quel a été l'écho de cette initiative? Quelles ont été les réponses? Et êtes-vous satisfait de la participation? Est-ce que vous vous attendiez à autant de monde ou moins de monde?
Nous ne savions pas du tout combien de personnes viendraient. Et j'ai été vraiment surpris par le nombre de personnes qui sont venues. Nous allons faire les comptes, mais je pense de l'ordre de 150, 170. Donc c'est vraiment une très bonne affluence. Bon, j'en suis ravi. J'ai même vu des Français qui habitent ici, que l'on voit très rarement. Et donc c'est aussi l'occasion à la fois de discuter avec des compatriotes qui viennent de tous les coins de la France, parler de ce qu'ils font, et puis aussi d'expliquer ce qu'est une ambassade, ce que nous faisons ici. Et j'ai eu beaucoup de questions sur cet aspect-là.
Quel type de questions?
Finalement, à quoi ça sert? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Voilà, le président et les présidents de la République se parlent entre eux, se rencontrent. Est-ce qu'une ambassade est encore utile? Et je leur répondais que bien sûr c'est utile, et je leur expliquais pourquoi, parce qu'il faut comprendre une réalité, expliquer quelles sont les positions des autres. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui nous sommes ensemble dans l'Union européenne que nos autorités, nos ministres se croisent, que forcément nous nous connaissons bien. Je crois qu'il y a un gros travail à faire, et ce que je retiens aussi de tout ça, c'est que au-delà de l'aspect chaleureux, convivial de se retrouver entre Français, c'est aussi l'occasion d'expliquer ce que nous faisons à nos compatriotes et chez eux, parce que nous travaillons avant tout, d'abord pour eux.
Question un peu plus personnelle, plus sportive aussi. Avez-vous assisté à la course? Et quel est le rapport que vous entretenez avec le sport? Êtes-vous sportif?
Pour être tout à fait franc, je suis un sportif intermittent. J'ai très souvent de bonnes résolutions. J'ai pas toujours le temps, compte tenu de mon activité, pour y donner suite. J'ai vu passer les coureurs, je cours de temps en temps, mais je ne suis pas coureur moi-même, je pratique d'autres sports comme la natation ou le golf.
Et puis le mot de la fin à Nicolas Delacoste, premier conseiller de l'ambassadeur, qui participait lui samedi à son deuxième semi-marathon.
C'était la deuxième fois à Prague, et je veux dire que pour moi, le départ du marathon, du semi-marathon avec la musique de Smetana, C'est à chaque fois un émerveillement. On a les larmes aux yeux. On part, on est plusieurs milliers à partir au même moment. Et c'est une très très belle course. C'était la deuxième fois, oui, ici à Prague. J'ai fait 2h07. Et en effet, arrivé au bout, j'étais tout à fait fatigué. J'ai dû aller aux urgences pendant une heure et demie pour me rétablir. Oui.
Mais donnons raison à Nicolas Delacoste, l'air de la Vltava de Smetana au départ vaut bien la peine de finir la course, malgré donc l'état de grande fatigue et la souffrance de certains coureurs. Mais ce sont là quelques-uns des plaisirs de la course à pied, des plaisirs que beaucoup de participants au marathon de Prague le 13 mai prochain donc connaissent bien eux aussi.
C'est la fin des émissions en français de Radio Prague qui se termine donc avec ce sport consacré notamment au semi-marathon. Je vous remercie de votre fidélité. Évidemment, vous savez que vous pouvez retrouver tous ces sujets sur notre site internet, en podcast ou également sous forme d'articles ou également en streaming. Vous le savez, c'est au www.radio.cz/fr. Bon vent, ahoy.